France Inter, le 7-9.
7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est président du MEDEF.
Bonjour à vous Geoffroy Roux de Bézieux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de la négociation sur l'assurance chômage dans un instant, puisque je crois que vous avez des annonces à faire. Mais d'abord, il faut le dire, et Thomas Legrand venait de le dire, les chefs d'entreprise ont été plutôt épargnés par le mouvement des Gilets jaunes, qui s'est surtout concentré sur le gouvernement. Mais tout de même, savez-vous quelle est la principale revendication qui ressort de quasiment tous les cahiers de doléances?
Je vous écoute.
La hausse des salaires. Augmenter les salaires, on n'y arrive pas. Vous répondez quoi?
Que les salaires ont augmenté depuis 10 ans quand on regarde les statistiques de l'INSEE. Mais la réalité, c'est que ce pouvoir d'achat supplémentaire payé par les entreprises a été mangé par les impôts. Parce que ce qui a augmenté très fortement dans le partage de la valeur des entreprises, c'est les impôts. Les dividendes sont stables, la part des salaires est stable, et c'est la part de l'État, enfin État et collectivité locale, qui augmente. Et donc les entreprises ont le même problème que les Français, c'est un ras-le-bol fiscal.
Oui, mais ils demandent aussi la hausse des salaires, et vous dites qu'elle est stable, elle n'est pas vraiment en augmentation depuis 10 ans, elle est
plutôt stable. La part dans la valeur ajoutée, pardon, oui. Juste pour préciser, la part dans la valeur ajoutée est stable, ce qui veut dire que les salaires ont augmenté proportionnellement au chiffre d'affaires. D'ailleurs, juste petite remarque, à qui on demande de verser une prime exceptionnelle?
Aux entreprises
privées, pas à l'État.
Ouais. Alors justement, cette prime exceptionnelle,
et elle sera versée.
Alors dites-nous combien d'entreprises vont la verser, parce que vous ne donnez pas ce chiffre, mais tout de même ça nous aiderait.
Bien sûr, on donne pas de chiffre tout simplement parce qu'on les a pas. Moi, j'ai pas un bouton rouge ou un bouton vert pour dire combien d'entreprises ont versé. Ce qu'on estime.
On sait qu'en 2011, il y a eu combien, 11% à peu près.
Oui, c'est ça.
En 2011, d'entreprises qui avaient versé cette prime exceptionnelle. Aujourd'hui, il y en a combien?
Écoutez, oui, il y aura beaucoup plus. On devrait être pas très loin d'une entreprise sur deux, avec évidemment une différence entre les tailles d'entreprise. La plupart des grandes entreprises vont verser, et un peu moins dans les PME avec des primes un peu moins fortes, tout simplement parce que la rentabilité est moins forte.
Mais quasiment 50% des entreprises vont la verser, cette prime.
Je ne veux pas que vous ayez ce chiffre en totem, parce que je n'ai pas de statistiques. C'est un peu les remontées qu'on a de notre terrain.
Vous avez claqué la porte des négociations, Geoffroy Roux de Bézieux.
On a suspendu notre participation.
Un coup de sang, oui.
On a suspendu notre participation.
Ça s'appelle claquer la porte.
Non. Elle n'a pas claqué, elle est restée ouverte.
Pour protester contre la détermination du président de la République à instaurer un bonus-malus sur les contrats courts. Aujourd'hui, ce jeudi, vous y revenez à la table des négociations. Pourquoi ce mouvement d'humeur et pourquoi finalement y revenir?
Parce qu'on pense que le bonus-malus, c'est une très mauvaise solution à un problème qu'on ne nie pas. Le problème, c'est quoi? C'est que l'économie d'aujourd'hui, partout dans le monde, pas seulement en France, pousse à des contrats courts parce que le client, le consommateur a des habitudes qui changent. Et donc, dans les hôpitaux, publics et privés, d'ailleurs je le signale, dans les restaurants, dans plein de secteurs, on voit un raccourcissement des contrats. Et on comprend très bien que pour le salarié, ça peut être un problème. Par contre, le bonus-malus,
Muriel Pénicaud dit cette phrase assez terrible. Elle dit « Un tiers des CDD aujourd'hui ne dure qu'une seule journée. On a réinventé les journaliers et ça me scandalise. »
Alors, je vais d'abord juste reprendre le Premier ministre hier soir. Vous avez vu sur LCI, il est interrogé par une femme qui enchaîne les contrats courts. Dans quoi? Dans la fonction publique. Et il a reconnu une chose, il a reconnu que l'endroit où il y a le plus de précarité et de contrats courts, c'était la fonction publique. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le consommateur, l'économie qui oblige à avoir des contrats courts. Maintenant, nous, on fait une proposition,
voilà,
effectivement.
Pour les entreprises privées, quelle est votre
alternative
proposition
au bonus-malus, dont on pense que c'est un destructeur d'emplois? Et ce qu'on propose, c'est que les salariés qui enchaînent plusieurs contrats courts avec le même employeur et dans le même mois se voient payer, à partir d'un certain nombre de contrats courts, une prime dite de précarité, qui serait payée par l'employeur et qui serait en quelque sorte la récompense financière de cette précarité, de cette flexibilité.
Donc, pour traduire,
c'est une proposition qu'on fait, alternative au bonus-malus, et qui est finalement la manière de reconnaître que ces contrats ont besoin d'exister, mais que aussi on doit compenser le statut de ces salariés.
Donc si par exemple moi j'accumule 3, 4, 5...
Je crois que ça arrive dans les radios, hein.
Oui, ça arrive, en l'occurrence ça m'arrive pas. Donc, mais 3, 4, 5, 6 contrats courts en un mois, mon employeur me verserait une prime exceptionnelle?
Alors, si l'accord qu'on propose ce matin, elle n'est pas exceptionnelle, elle serait donc une prime de fin de contrat à chaque fois qu'il y a une fin de contrat. L'accord qu'on propose ce matin, il a deux volets. Pardon, il a ce volet anti-contrat court, ou du moins compensation de contrat court, et puis il a un volet indemnisation économie, parce qu'il faut pas oublier que le gouvernement, dans une lettre de cadrage extrêmement précise, demande aux partenaires sociaux, donc syndicats et patronats, deux choses: lutter contre la précarité, réduire le nombre de contrats courts d'un côté, ou en tout cas les aménager, et d'autre part faire 1 milliard d'économies par an. Il faut pas oublier ce volet, puisqu'on a parlé que de la partie contrats courts. Mais il y a un volet qui est très important, sur lequel on fait aussi des propositions et on attend la réponse des syndicats, c'est ce volet indemnisation.
D'accord, mais pour cette prime que vous proposez ce matin, ce serait quoi? Entre combien de contrats par mois?
Écoutez, à ce stade, il y a une négociation qui démarre. Je ne vais pas donner le détail ni du pourcentage
mais
de
si
la prime.
Mais si je dis entre 4, 5, 6...
C'est quelques contrats par mois. Voilà, ça donne un ordre de grandeur. Mais il faut que les négociateurs négocient.
Mais sur le fond, sur la philosophie, vous avez eu une grande souplesse avec ce nouveau gouvernement, avec les CDI, avec... Aujourd'hui, on peut licencier beaucoup plus facilement.
Non.
Ah bon?
Non, le CDI n'a pas changé.
Le plafonnement des indemnités prud'homales n'a pas changé.
Ça ne permet pas de licencier plus facilement, ça permet de prévoir le coût du licenciement. Non.
La mesure a été faite pour fluidifier les choses, pour permettre aussi de licencier plus facilement.
Pourquoi le nombre de CDD grandit très très fortement depuis 10 ans? Tout simplement parce qu'on a un marché du travail qui est ce qu'on appelle totalement binaire, c'est-à-dire un CDI qui est très protecteur et un CDD qui ne l'est pas du tout. Et donc je pense que quand on aura fini cette négociation, il faudra se reposer la question du travail. D'ailleurs, l'homme qui a inventé le bonus-malus, c'est le prix Nobel de l'économie Jean Tirole, il disait il faut mettre le bonus-malus et un contrat unique. On a juste oublié la deuxième partie. Mmh. Donc c'est pas le cadre, l'assurance chômage, pour négocier le contrat de travail, mais il faudra poser cette question-là.
Là, vous êtes en phase de négociation. Si jamais le gouvernement passait en force, puisque c'est vraiment une promesse d'Emmanuel Macron en campagne, le bonus-malus sur les contrats courts, qu'est-ce que vous faites si le gouvernement passe en force?
Il passe en force, il a été élu, il a le droit de passer en force. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je pense que ça serait une erreur dans un moment où, si on arrive à un accord, et on n'en est pas là, les partenaires sociaux font preuve de responsabilité, je pense que ça serait une erreur pour le dialogue social, pour l'apaisement du pays, de passer en force.
L'autre grande demande des Gilets jaunes, Geoffroy Roux-de-Bézieux, c'est plus de justice fiscale. Si je veux demander de choisir l'une des trois propositions suivantes pour plus de justice fiscale, ça amuse Dominique Seux, vous êtes obligé d'en choisir une. Hein.
Non, je suis obligé.
Alors
de rien.
On y va. Le rétat, on y
je suis
va.
Obligé de vous répondre, ça c'est une certitude.
Les trois propositions pour plus de justice fiscale sont les suivantes. Le rétablissement de l'ISF petit 1, la création d'une nouvelle tranche d'impôts supplémentaires pour les plus riches petit 2, ou la suppression des niches fiscales pour les 10% les plus riches. Vous choisissez
donc
quoi?
Vous me proposez le choix entre trois augmentations d'impôts dans un pays qui est à 48% de prélèvements obligatoires. On est le champion du monde des impôts. Vous savez, mais cette révolte, elle a démarré, c'est une révolte fiscale. Les gens en auront le bol de payer des impôts, les entreprises en auront le bol de payer des impôts. Et donc, je ne vais pas avoir ce choix absurde qui est
de... Vous refusez mes trois propositions.
Je refuse vos trois propositions. Je vais vous dire, la quatrième proposition que vous n'avez pas faite, c'est baisser les impôts. C'est baisser les impôts.
Plus de justice fiscale, ça veut dire...
C'est baisser les impôts pour ceux qui en
payent trop. Même pour les plus riches.
Mais pour... Même pour les plus riches, si vous voulez, mais il faut baisser les impôts. Madame Salé, on est arrivé au moment où plus on augmente les impôts, moins il y a de recettes fiscales. C'est ça la réalité. C'est qu'à 48%, on ne peut plus payer d'impôts. Les entreprises peuvent plus payer d'impôts, les particuliers peuvent plus payer d'impôts. Donc baissons les impôts et arrêtons d'inventer des impôts tous les 3 jours.
Alors justement, vous souteniez, le MEDEF soutenait une hausse d'impôts. C'était la hausse sur la taxe carbone. Vous vous souvenez, vous avez soutenu l'augmentation de la taxe. Elle a été annulée son augmentation a été annulée par Emmanuel Macron avec la crise des Gilets jaunes. Aujourd'hui, un certain nombre de députés demandent son retour. Vous pensez que ce serait une folie?
Soutenez pas la hausse de la taxe carbone. On soutenait le principe de la taxe carbone compensé par une baisse d'impôts. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, ce que les économistes appellent un signal prix, pour investir dans les technologies vertes. Aujourd'hui, produire plus vert, ça coûte beaucoup plus cher. Et donc il faut qu'on prenne en compte ce surcoût pour que les industriels investissent. Donc moi je continue à penser que la taxe carbone est un bon mécanisme. Il y a un pays qui s'appelle la Suède qui l'a mis en place lentement, de manière prévisible, pendant 20 ans, commencé en 91, et ça marche.
Toute dernière question, le 18 janvier dernier, vous disiez les entreprises françaises ne sont pas prêtes pour le Brexit. Aujourd'hui, un mois plus tard, alors qu'on s'achemine peut-être vers un no deal, est-ce que les entreprises françaises sont prêtes?
Non. J'étais à Londres 2 jours, jeudi, vendredi. Malheureusement, quelques grandes entreprises sont prêtes, mais la grande majorité des entreprises qui exportent, il y en a 30 000, sont pas prêtes parce que c'est très compliqué d'être prêt. On a pendant 30 ans fait des règlements avec les Anglais et donc c'est... secteur par secteur, entreprise par entreprise, qu'il faut être prêt. Donc on sera pas prêt le 30 mars s'il y a un Brexit dur.
Geoffroy Roux-de-Bézieux était notre invité. Merci à vous et belle journée.
Merci Léa. Rendez-vous à 8h20.